Chapitre 5. La nuit s'étendait sur la cité du roi des Andes. Les lampes électriques qui éclairaient ces larges voies étaient éteintes, celles des maisons et des tentes les imitaient une à une, en même temps que s'atténuaient les bruits du camp. Une guitare résonnait encore, un éclat de voix se faisait entendre par une fenêtre entr'ouverte. Mais bientôt, le silence complet régnerait, ainsi que l'exigeaient les ordres du maître, toujours strictement observés, même pendant ses plus longues absences. Du côté des grottes, une ombre féminine surgit. Petite et menue, elle avançait sans bruit et sans hésitation, en dépit de l'obscurité. Bientôt, elle atteignit l'enclos réservé aux demeures des prisonniers, humble cahute que gardait une sentinelle, non par crainte d'une évasion qui n'était pas possible à Solepto, mais dans le cas où une révolte eût été tentée. Un coup de sifflet ou une simple pression sur un large bouton électrique placé dans la guérite où elle s'abritait suffisait à cette sentinelle pour avertir un petit poste tout proche. En dehors de l'enclos se trouvait une espèce de hangar où les prisonniers rangeaient les outils dont ils étaient servis pendant le jour. Ce fut de ce côté que la femme, évitant la sentinelle, se dirigea d'un pas glissant. Quand elle se trouva tout près, elle appela doucement « Êtes-vous là, seigneur Herman ?»« Qui est-ce qui me parle? Que voulez-vous » dit une voix rude en mauvais espagnol. « Une personne qui s'intéresse à votre sort. Répondez d'abord à une question. Voulez-vous vous venger de celle qui est cause du rude châtiment que vous inflige le cabessir ?»« Celle qui est cause? Voulez-vous parler de la Française ?» Elle a empêché le maître de me tuer. C'était une comédie. Elle voulait simplement attendrir Don Miguel par son émotion et ses prières et lui faire croire à sa bonté. La preuve qu'elle se soucie bien de vous, c'est qu'elle vous a laissé châtier comme le dernier des esclaves, alors qu'il lui eût été facile d'obtenir votre grâce du cabétuir, qui ne lui refuserait rien. C'est vrai, mais qui êtes-vous donc? Et pourquoi venez-vous me raconter cela? « Que vous importe qui je suis, je viens vous offrir la vengeance. »« C'est très bien, mais je ne veux pas m'engager à l'aveugle dans une affaire au bout de laquelle, si je suis découvert, le maître me fera pendre sans rémission. Dites-moi votre nom, on verra après. » Comme sa mystérieuse interlocutrice ne répondait pas, Herman ajouta d'un ton goguenard « Du reste, je peux vous le dire moi-même, je vous ai reconnu à votre voix. » Vous êtes Vicenta, la sœur de lait du maître. » La femme eut une sorte de rire forcé. Vous êtes très fort, seigneur. Eh bien oui, c'est moi, Vicenta, qui viens vous offrir la vengeance en même temps qu'un moyen de fuir l'enfer que sera désormais pour vous Solepto. Pourquoi faites-vous cela? Car je ne suis pas assez présomptueux pour imaginer que ce soit par intérêt pour moi. Non. C'est seulement parce que je déteste cette Française, dit l'Indienne d'un ton sournoisement haineux. Ah, vous êtes jalouse de la jolie seigneurite, des égards dont l'entoure Don Miguel, alors que vous, sa sœur de lait, êtes traitée simplement par lui comme une esclave, ricana Herman. Et qu'avez-vous imaginé? Voici, j'ai pu entendre l'autre jour une conversation entre le seigneur de Blangard et son fils. J'ai appris ainsi que le jeune homme, il s'appelle Maxence, avait compté naguère épouser sa cousine, la seigneurite en question, et qu'il avait maintenant contre elle de la haine plein le cœur. « Ah, si je la tenais entre mes mains !» disait-il d'un air mauvais. Il parlait aussi de tenter une évasion, mais il disait qu'il n'y fallait pas compter sans la complicité de quelqu'un d'ici. Cette complicité, il faudrait que vous vous arrangiez pour la leur offrir de ma part, mais sans me nommer. Vous travaillez depuis 2 jours avec eux. Tâchez de leur glisser quelques mots. Mais comment vous arrangerez-vous pour les faire fuir? C'est mon affaire. Vous n'aurez qu'à les prévenir, à leur demander leur acceptation. Demain soir, je viendrai ici savoir la réponse. Nous arrangerons tout alors pour le jour. Il faudrait que ce soit après-demain, car le maître revient dans 4 jours et il faut qu'il trouve l'oiseau envolé. Mais je ne comprends pas comment la fuite des Blangards a des rapports avec Mademoiselle de Brévis. Patience, vous comprendrez plus tard. Et les autres prisonniers qui accompagnaient les Français ? Nous pouvons les faire évader aussi, ce sont des gens sans scrupules dont nous n'avons rien à craindre. Mais pas le vieux savant, ni l'autre jeune homme, par exemple. Ils sont du parti de la seigneurite. Oui, je sais, on les laissera tranquillement ici. À demain soir, donc, seigneur. À demain soir, seigneurite. Le pas léger s'éloigna et Hermann demeura seul. Ce que c'est qu'une haine de femme, murmura-t-il en s'étendant de nouveau sur le sol son seul matelas. La jolie Française va savoir ce qu'il en coûte d'avoir touché le cœur de Don Miguel, jusqu'ici imprenable. Mais je voudrais bien savoir comment cette Vicenta va s'arranger pour nous faire sortir d'ici. Impossible par les moyens connus. Seulement, elle sait peut-être quelques secrets. Sa mère a la confiance du maître. Je crois qu'on peut se fier à elle, c'est une fille intelligente et rusée. Puis, elle a intérêt à réussir, car si nous étions pris, nous aurions vite fait de dévoiler sa complicité. Et alors, la justice du maître serait expéditive, pour nous aussi du reste. Ajouta-t-il avec un frisson de terreur qui le secoua tout entier. Inès avait été promptement remise de sa petite rechute. Et maintenant, elle se promenait chaque jour avec Jacques, M. Hamlet et Bille. L'immense esplanade sur laquelle était bâti Solepto et qui surplombait d'un côté les abîmes, tandis que les trois autres étaient bornés par d'énormes falaises, se prolongeait sur une longueur de 3 kilomètres pour finir brusquement à pic. Les prisonniers admiraient sans réserve l'aménagement de la mystérieuse cité, dont tous les détails leur étaient montrés par Don Sanche ou Don Esteban, celui-ci très empressé, comme un homme qui a beaucoup à se faire pardonner. Inès, si elle l'eût voulu, eût été entourée ici d'une véritable petite cour. Il ne manquait pas, dans la troupe du roi des Andes, d'hommes du monde appartenant à toutes les nationalités, qui auraient été charmés de l'entourer d'hommages discrets. Mais elle ne s'en souciait aucunement et passait indifférente au milieu de l'admiration flatteuse que soulevait sa présence. « Nous sommes si peu de choses près de Don Miguel, » soupirait M. de Salve, qui s'arrangeait pour croiser chaque matin le frère et la sœur dans leur promenade et paraissait tour à Dieu lorsqu'il avait pu échanger quelques paroles avec Mademoiselle de Brévis. Les partisans du roi des Andes avaient tous la conviction que Don Miguel demanderait à la charmante Française, qui l'entourait d'attentions si inaccoutumées, de devenir sa femme. Et la pensée d'un refus de la part d'Inès ne venait à l'esprit d'aucun de ces hommes idolâtres du jeune chef qui les tenait sous son ensorcelant empire. Inès voyait approcher l'instant de sa libération avec allégresse mêlée d'angoisse. Là-bas, elle allait retrouver son cher couvent. Elle pourrait, dans la paix qui y régnait, oublier cette étrange aventure, se persuader qu'elle avait rêvé ce séjour à Solepto, la cité du seigneur de la montagne. Oublier, combien ce serait difficile. Il lui semblait que, toujours, elle aurait devant les yeux le superbe décor de ses pics neigeux, de ses gorges immenses, de ses abîmes insondables, les uns muets, les autres emplis du sourd mugissement des torrents qui s'y précipitaient. Et surtout, elle le reverrait, lui, cet homme étrange, ce mystérieux charmeur, si déconcertant dans son mélange de bonté chevaleresque, d'implacable sévérité, de passion pour la justice, d'inconscience de la bassesse, de certains des moyens employés par lui. Il me semble qu'il devait avoir une si belle nature. Une éducation fausse a dû la gâter, non entièrement pourtant, car il est encore bon et généreux, comme le prouve sa conduite à notre égard. Elle songeait ainsi dans la solitude de sa chambre, doucement éclairée par une veilleuse électrique. Elle ne s'était pas couchée encore, voulant faire quelques rangements dans sa malle, en prévision de son prochain départ, car Don Miguel allait bientôt revenir, et elle savait que ce serait le signal de sa délivrance et de celle de son frère, en même temps que de l'exécution des Blangards, réservée pour le moment où leurs jeunes parents ne seraient plus à Solepto, Don Miguel, ne voulant pas donner une impression pénible à Mademoiselle de Brévis, ainsi que l'avait expliqué Don Sanche à la jeune fille quand elle l'avait interrogé sur le sort des prisonniers. D'où Inès avait conclu qu'il ne serait pas inutile de tenter encore, avant son départ, d'obtenir leur grâce du roi des Andes. Comme elle allait commencer à se déshabiller, elle vit remuer la tenture soyeuse qui séparait sa chambre d'une sorte de petit salon la précédant. Elle s'approcha dans l'intention de se rendre compte et la souleva. Elle se sentit saisie entre des bras vigoureux, un bâillon tomba sur sa bouche, des liens en serrèrent ses membres. Puis elle fut enlevée sur de robustes épaules et se sentit emportée. D'abord, à demi évanouie, elle reprit un peu conscience d'elle-même en entendant autour d'elle un chuchotement. Ses yeux s'ouvrirent, ils aperçurent tout d'abord le blême visage de Maxence penché sur elle, grimaçant d'une joie diabolique. « Ah ah ! La chance tourne, mademoiselle de Brévis ! Vos bons parents reprennent possession de vous, et le roi des Andes, votre féal chevalier, n'est pas là pour venir vous enlever à nous. « Ne nous retardons pas, seigneur !» dit une voix de femme un peu impatiente. « Je me méfie de Joaquin, l'âme damnée du maître, qui a coutume de rôder partout. »« Oui, oui, partons !» reprit une autre voix, celle d'Edmé. « Je n'ai pas envie de retomber entre les mains du roi des Andes. » D'autant plus que, cette fois, vous seriez pendu tout comme nous, dit l'homme qui portait Inès avec un fort accent tudesque. La jeune fille, sortant un peu de son ahurissement, jeta un regard autour d'elle. Elle se vit dans la salle aux piliers avec, autour d'elle, M. de Blangard, ses enfants, Volette, Milochon, Luret et, un peu plus loin, une femme, la fille d'Alonce, dont les yeux noirs la couvraient d'un regard de joie haineuse. « Voyons, par où allez-vous nous faire fuir ?» demanda le gros Blangard, qui avait déjà passablement maigri. « Par le gisement aurifère des Incas. »« Vous dites ?» haleta le député. « Vous connaissez donc le secret ?» s'écria Edmé en s'élançant vers l'Indienne. « Oui, je l'ai appris par hasard. Vous trouverez là très facilement un sentier difficile, mais non impraticable, qui conduit à la Quebrada del Meno, inexploré jusqu'à ce jour, à cause des torrents qui la traversent et, à la suite des pluies, l'inondent à chaque instant. En ce moment, par suite de la sécheresse persistante et inaccoutumée, vous pourrez passer et gagner, sans trop de difficultés, la Quebrada del Mantono, où vous vous reconnaîtrez. J'ai préparé d'ailleurs les indications nécessaires, vous les trouverez dans ces paniers où j'ai mis des vivres et les quelques armes que j'ai pu me procurer. Et maintenant, allons !» Subjugué par la décision et l'énergie de l'étrange créature, il la suivirent hors de la salle. Et Inès, le cœur broyé de terreur, murmura « Mon Dieu, ayez pitié de moi! Que vais-je devenir ?»